J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatché et Simon Dumas. Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux, et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Daniel Canty et Pierre Neveu. Daniel Canty est écrivain. Il élabore depuis la fin du 20e siècle une œuvre où l'écriture se prête à toutes les métamorphoses. Scénarisation et réalisation, dramaturgie, création de livres, d'interfaces, d'installations, d'expositions ou de parcours. Sa prose poétique où la curiosité se conjugue à une tendresse matinée d'humour sonde le sentiment du temps. Son prochain livre, « Sept proses sur la poésie » paraît ce printemps. Pierre Neveu est né à Montréal en 1946. Il est poète, essayiste, romancier et professeur émérite du département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Outre une dizaine de recueils de poèmes, il est le co-auteur avec Laurent Maillot d'une anthologie, La poésie québécoise des origines à nos jours, rééditée à plusieurs reprises depuis 1981. Il est également le biographe du poète Gaston Miron. Comme première question, on aimerait que vous nous définissiez la poésie. Qu'est-ce que la poésie selon vous?
Ben, c'est une question un peu essentialiste hein, du type de celle qu'on abordait pendant, pour ceux d'entre nous qui ont fait des études littéraires. C'est certainement le genre de question qu'on nous encourage à poser dès qu'on met le pied à l'UQAM, en tout cas. Mais moi, si j'avais une réponse, j'en ai préparé une, en fait, 5 minutes avant tout ceci commence. J'ai repensé à la formule de Borges sur la philosophie, quand il disait « la philosophie est une branche de la littérature fantastique ». Et puis moi, je vous dirais que pour moi, la poésie est un peu une branche de la littérature fantastique. Et que la littérature elle-même, par contre, est une branche de la poésie. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'un côté, la poésie donne accès aux sentiments du monde, comme dirait Ungaretti. La poésie aussi donne accès à l'idée d'une trame parallèle des jours, d'une signification des jours qui est sinon amplifiée, mais en tout cas focalisée jusqu'à un certain point. Pour moi aussi, comme toute littérature, c'est une sorte d'exercice de ralentissement qui permet de révéler ou d'au moins esquisser une certaine forme des choses. Et puis, quand je parle d'une branche de la littérature fantastique, c'est que c'est une pensée aussi de la potentialité. C'est une pensée qui, à travers l'esquisse, propose en même temps une sorte de totalité. Une totalité qui est toujours, pas pour faire mon Jacques Derrida, là, mais qui est toujours différée ou qui est toujours... Qui va rester à l'état, si vous voulez, de c'est comme ces théories là en philosophie cognitive où ils disent que la vision est construite d'une série d'esquisses cognitives, puis qu'ensuite on crée une sorte de cartographie des choses. Puis je pense que pour moi, la poésie, c'est un mode de connaissance qui procède d'une façon qui est très proche, en fait, du mystère de la conscience. Quelque chose qui est dans un entre-deux entre le su, la sensation, puis le langage lui-même comme externalisation de notre expérience interne. Fait que c'est comme si, en quelque part, c'est un pli de l'espace-temps auquel le langage donne momentanément et partiellement accès. Quand je dis que la littérature elle-même est une branche de la poésie, c'est que moi, j'ai toujours l'impression que on n'est pas assez libre en littérature. On ne revient pas assez à l'idée de base de la fabrication du monde. C'est-à-dire que, par exemple, Pierre, à la fin de son ouvrage « Lecture des lieux », évoque le fantôme de Lucrèce, assez à Rome, qui est traversé par la pensée de l'accident, qui contemple sa propre finitude à travers la pensée d'un poète futur, n'est-ce pas, d'un auteur futur, mais qui en même temps est visité par les vagues de l'infini, c'est-à-dire l'idée que tout est partiel, que tout est toujours recommencé, mais que tout est là quand même. Et puis, bon, c'est pas une définition que je vous offre, là, c'est plutôt une dérive à partir de votre question initiale, mais quand je dis que c'est aussi que la littérature est une branche de la poésie, c'est que j'ai souvent dit ça là, dans des... Fait qu'excusez-moi si vous avez déjà écouté des conférences ou des choses que j'ai dit, mais la fiction, hein, ça vient de la racine latine fingere, qui vient de nos 10 doigts. C'est un mode de la fabrication. Puis la poésie, c'est un autre côté qui est, disons, la poésie dans sa potentialité. C'est aussi une marque du fer, en fait, mais cette fois du côté grec. Et puis pour moi, cette idée que la poésie, c'est la fiction du tout. C'est la fabrication, c'est une part de la fabrication de la réalité, en tout cas. Et puis, cette idée aussi que c'est un mode, j'ai dit un mode de connaissance, mais je pense que ce serait presque plus juste de dire que c'est un, sans vouloir tomber dans la théologie négative ou le mysticisme, c'est que c'est une sorte, mais pourquoi pas, c'est une sorte de mode d'inconnaissance, en fait. C'est quelque chose qui nous permet d'aborder... le nuage des faits, le nuage de la présence, c'est de lui donner une forme aussi partielle et passagère soit-elle.
J'ai entendu un mot, en tout cas, qui me tout de suite me sollicite mon accord, c'est le mot externalisation ou extériorisation. Pour moi, je ne conçois surtout pas la poésie sur un mode psychologique et sur un mode de sentiment. Je crois qu'on a tous... Finalement, il y a une grande banalité des sentiments en tant que tels, des émotions. En tant qu'être humain, je pense que... On vit, c'est être en amour, être en deuil, s'ennuyer. Il y a une espèce de banalité à ce niveau-là. Et ce qui décide, pour moi, ce qui fait la poésie, c'est, moi je dirais, la projection de telle émotion, mais qui en fait existe à peine tant qu'elle n'est pas projetée par le langage dans des lieux, des objets, des situations. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, Daniel, à la fin de tes proses sur la poésie, tu cites Elizabeth Bishop. Et il est question de géographie, enfin de cartographie. J'ai oublié d'employer le mot tout à l'heure, cartographie, mais... pour moi, la notion de géographie est très importante, mais je prends dans un sens très large. C'est-à-dire, je pense que tout poème aspire à une certaine géographie, à un certain espace. Je n'en nie pas la dimension du temps, mais pour moi, c'est d'abord un rapport à l'espace. Oui, aspiration au tout. Mais ce qui est paradoxal en poésie, c'est que l'aspiration au tout, elle se formule à travers le fini. Ce qui définit un poème, c'est souvent pas toujours le cas parce qu'on peut parler de poésie dans un sens beaucoup plus flou et large. Mais moi, en tout cas, tel que je pratique le poème, c'est un objet fini. Tu parles de fabriquer, c'est un objet qui est fait, qui est construit, qui est structuré. C'est surtout une syntaxe. Et pour moi, le monde lui-même est une syntaxe. Le monde lui-même est une articulation de plus ou moins hiérarchisée, mais de lieux, de personnages, de situations, d'horizons. De ce point de vue-là, donc, si on veut, le poème, quand même, se formule, et la syntaxe, forcément, dit ça aussi. La syntaxe, pour moi, c'est d'abord c'est la forme de la phrase, et pour moi, mais la poésie est faite de phrases. Je n'aime pas beaucoup la juxtaposition. J'aime que ça s'articule. Et mais de ce point de vue-là, ça veut dire aussi que ça se termine, que c'est fini. D'ailleurs, j'avais lu un livre, j'oublie, je crois qu'elle s'appelle Barbara Ernstein-Smith, mais elle avait écrit, je me souviens avoir lu un livre que j'avais trouvé passionnant, qui est How Poems End. C'était une étude très intéressante sur la manière dont se terminent les poèmes. Et donc, paradoxalement, c'est souvent dans la chute que se dit, bien sûr, la clôture, mais aussi que se totalise le sens dans une sorte de transcendance ou d'aspiration au tout dont tu parles. Alors, il y a cette espèce de tension entre la clôture puis quelque chose de très ouvert, finalement. Mais donc, pour moi, l'idée vraiment fondamentale, elle est beaucoup dans celle d'extériorisation. Parce que probablement aussi que je sens l'intériorité comme souvent une espèce de magma, quelque chose d'assez marécageux. Et que ça ne prend forme, tout ce qui est à l'intérieur, que lorsqu'il y a cette projection dans un espace, évidemment par la médiation du langage dans mon cas, mais chez un artiste, chez un peintre. Et moi, je dirais que ce qui me fascine beaucoup dans ce que tu écris, c'est précisément ça, cette possibilité d'extérioriser, d'objectiver. Évidemment, dans des cas extrêmes, c'est par exemple Vigroum, où là, on n'a que des objets qui sont présentés, décrits, racontés, etc. Mais c'est pas par hasard que tu as traduit aussi Charles Simic, qui est aussi, c'est la même chose, c'est une juxtaposition de coffrets, d'objets. Alors, ça, pour moi, ça me fascine chez les poètes. Je trouve que Elizabeth Bishop, d'ailleurs, que tu cites, enfin, c'est précisément quelqu'un qui parvient à saisir, tu cites de Map aussi, qui sont le premier, moi, dans l'édition que j'ai, c'est le premier poème de ses Complete Poems. C'est d'ailleurs une œuvre qui n'est pas très abondante, là, d'Elizabeth Bishop, mais chaque poème est superbement construit, souvent très, très, très construit, et a aussi cette aptitude à parler de l'extériorité, à s'investir dans l'extériorité. On pourrait dire aussi dans l'altérité, parce que je pense que il n'y a pas de poésie. C'est une idée qu'a beaucoup développée Octavio Paz, que j'ai lu quand j'avais 25 ans, au moment où je faisais ma thèse, et des livres comme L'Arc et la Lyre, Point de convergence, etc., où cette idée-là est fondamentale. C'est-à-dire la poésie, c'est toujours un passage à l'altérité. Il n'y a pas de poésie sans l'autre, sans la projection dans l'autre. Puis c'est pas nécessairement juste la métaphore. Des fois, ça m'agace qu'on mette tant l'accent, puis c'est sûr que ça vient notamment des surréalistes, que la poésie soit métaphorique, soit que la métaphore soit la figure fondamentale de la poésie. Ben pour moi, c'est tout autant la métonymie qui est une figure fondamentale de la poésie, c'est-à-dire la capacité d'explorer un espace par contiguïté, pas juste par association. Oui, c'est vrai, mais l'investissement d'un certain espace. Tu sais, un arbre est dans un champ, il y a une maison à côté, il y a un jardin, il y a toujours un réseau métonymique autour des objets, autour des lieux. Et pour moi, dans la poésie, il y a toujours cette exploration de cet espace-là, en tout cas. Donc, c'est ce que je pourrais dire.
Vous entendrez maintenant Pierre Neveu vous lire des extraits de son recueil « L'espace caressé par ta voix » publié au Norrois en 2019.
Poussière et cendre à ma petite fille Lily, née en 2016. Bien avant les feux d'artifice du 22e siècle, mon corps aura perdu sa masse et ses contours, et les cartes affichant ma photo, mon passeport expirant dans 5 ou 10 ans. Dormiront jaunis dans des boîtes ou des fonds d'archives, alors la route sera ouverte pour tes étonnements. Et si tu trouves dans mes quartiers des rangées de vêtements qui ne sont plus portés, du bric-à-brac, de vieilles chaises de plage, des ventilateurs rouillés, des patins et des skis depuis longtemps hors d'usage, et des tiroirs remplis de notes et de récits. Tu pourras faire maison nette et trouver l'air salubre qu'il te faut pour vivre. Il y aura pour toi des étés brûlants et d'autres dont les fumées déchireront la pluie, des jours de soleil pour les mariages, des jours de novembre pour les séparations. Tu iras à l'école des ruptures et des renaissances. Tu seras brisée puis reconstruite. Ce temps futur épousera ta forme tandis que j'aurai perdu mes états civils et que mes verbes tomberont d'orphelin, me laissant les mains vides et l'esprit nulle part, ou peut-être en toi, comme un murmure à peine audible. J'ai conçu ce projet étrange et fou, laisser des traces non pas derrière, mais devant nous, comme si mon récit nous précédait dans l'inconnu, sans désir de survie, ni emprunter à ton avenir la promesse factice de l'immortalité. Simplement pour que toi seul, jeune et vivante, puisse mesurer la fragilité du monde, le paysage égratigné des misères, le plomb des propagandes, et que je te sache moins dépourvu qu'en bougeront un soir les plaques tectoniques de ta confiance. Pour que ton oreille solitaire et rendue sourde découvre qu'un chuchotement l'accompagne. Parfois, tu étais toi-même la page blanche sur laquelle j'allongeais le cours de ma vie. Tu étais mon récit des petites exaltations précédant le déclin. Nous marchions dans les bois pour ratisser les fonds touffus de la lumière. Ton sourire magnifiait l'imminence de mon départ et ton entêtement de fillette découvrant la puissance des choses, l'impératif des sentiers qui nous découpent hors du brouillard et mettent à vif la vieillesse des écorces. Je marchais avec toi dans le pénultième crépuscule, celui qui nous fait pencher du côté des ombres, en donnant aux paroles la couleur ocre des épilogues. Peut-être as-tu cessé de m'entendre. Je ne parle plus que par en dedans. J'ai des phrases qui tombent à court de leur objet. Ma seule tâche est de m'asseoir dans le jardin pour déchiffrer le bruit que fait ma pensée. Mais si tu viens, déterre mes mots un à un. Ils ont la couleur et la fermeté des tubercules. Tu peux en faire ce que tu veux. Je ne sais pas si c'est encore une langue ou si c'est ma vie elle-même qui déparle et qui racine dans la boue opaque. La grandiloquence du mot « avenir » te laisse de glace. Nous avons vu le gravier des routes partir en poussière et chercher en vain la signification du voyage sur Google. Alors, si tu veux, rentrons dans ce qui parle peu et déployons l'infime. Les petits mots n'ont pas de coquille. On les brasse dans la main comme des dés. Ils tombent hors de la table, hors de la ville. Ils roulent sur des pentes en friche. Tu les avais dans ta main quand tu étais petite, sans savoir que le destin lui-même veut tout écrire en majuscules. Le futur est un jardin de métaphores. Toi seul t'y promènes avec un vrai visage et un corps qui entend respirer la terre. Au loin, à l'extrême de l'âge, forêts et vents ne sont qu'images sur un horizon de glaciers qui fondent pour satisfaire les prophéties. Tu es l'histoire la plus vraie de ce jardin fantôme, et si les œillets tremblent quand j'imagine te les offrir le jour de tes 18 ans, ce n'est que ma propre crainte que déjà, étant devenu poussière et cendre, je sois privé de corps et de mains pour cueillir et te donner des fleurs.
Mais donc, je comprends le rapport du poète au réel et le besoin, voire la manière de puiser, de ponctionner le réel pour le travailler et le transposer ou le décaler ou l'amener en littérature. La question que je me pose, oui, mais pour les autres. Et donc, qu'est-ce qui fait que des lecteurs de poésie vont faire le voyage inverse, vont sortir du réel pour aller à la rencontre d'un autre réel qui est transposé dans le langage, qui a été filtré par la sensibilité d'un autre humain. Et même, je dirais plus loin, et pour les non, ceux qui n'en lisent pas de poésie, pour les non-lecteurs, on a commencé la série avec Éric Dorion, qui est un artiste noise, parce que c'est dans la catégorie des arts sonores et de la musique, une des pratiques les plus nichées. Il y a toujours une quinzaine de personnes à ses concerts. Je me suis dit, bon, mais pourquoi faire du noise? Tu sais, si, puis il me dit toujours, ben c'est moi, c'est ma façon de m'exprimer, j'ai besoin de faire ça. Je dis, OK, ça, c'est de ton point de vue. Mais comment ça se fait qu'il y a une petite communauté quand même autour du noise? T'es pas tout seul, il y a des gens qui y vont. Et puis, dans la société en général, je suis convaincu que le noise sert à quelque chose. Bon, et d'autant plus la poésie. Daniel, tu dis que tu transformes tout en fiction. Qu'est-ce qui fait que on ne peut pas imaginer un monde où, accolé au réel, il n'y a pas la fiction? À quoi ça sert?
Moi, je veux ramener ça à quelque chose qui va avoir l'air d'une esquive et qui en est peut-être une. Mais je parlais tantôt du point de vue minoritaire ultime, qui est celui de la matière. Ben moi, ce qui m'intéresse de plus en plus dans ce que je fais, c'est de me mettre au-delà de l'écoute de l'écoumène. Ça m'importe beaucoup le souci des autres, mais aussi Frédéric Boyer, dans sa belle traduction de Virgile, il l'a intitulé « Le souci de la terre ». Et puis, en quelque part, moi, j'ai cette injonction de Calvino ce pouvoir que Calvino attribue à la littérature de donner parole à ce qu'il n'y en a pas, que ce soit ou ce qui semble ne pas en avoir, mais qu'il y en a probablement, que ce soit une dame endormie dans le métro un soir à Côte-des-Neiges ou l'oiseau sur sa branche ou la pierre lunaire de retour à Cap Canaveral ou je ne sais pas quoi. Moi, ça m'intéresse de donner parole à tout ça. Bien que je sais que c'est promis à une certaine sorte d'échec, mais pour moi, de célébrer le pouvoir miraculeux de la conscience et de la fiction ou de la poésie, être capable de créer une espèce de champ de présence autour de ce qui est regardé, de ce qui est perçu, et puis de le reconduire dans l'espace d'un texte, dans l'espace-temps d'un texte. Pour moi, c'est miraculeux, ça. Puis ça a tout à voir avec ce que le philosophe... C'est une formule que j'adore puis que j'utilise à ma manière. C'est la formule du philosophe Thomas Nagel qui parle du point de vue de nulle part. Pour moi, la littérature, c'est quelque chose qui est capable de nous raccommoder avec le point de vue de nulle part. C'est-à-dire, justement, de nous amener dans cette espèce de point immatériel où... la potentialité des choses redevient visible. Fait que si une image qui t'a visité, tu la traites comme si c'était une chose vivante avec laquelle tu serais poussé à entamer un dialogue et à déployer une nouvelle limite dans le langage autour de cette perception-là, autour de cette image-là qui s'est installée en toi et qui ne te quittera plus tant que tu n'auras pas vécu le dialogue avec cette image, cette force qui t'aurait traversé, qui serait installée en toi.
Vous entendrez maintenant un extrait de « Sept proses sur la poésie », le prochain livre de Daniel Canty qui sortira incessamment. Cet extrait s'intitule « Les seuils » par Evelyne de la Chenelière.
Des choses, la lumière, la transparence, la rondeur, l'atmosphère, l'hiver, les ombres, une lueur lactée étincelante, une étoffe sombre, des tons terreux, des coiffures ouvragées.
La vie peut-elle devenir une phrase
rose
ou l'inverse? Une phrase peut-elle prendre vie? Ce serait bien.
Une matière à la
fin. Une phrase infinie, une phrase éternelle pour restituer la matière du monde.
Un motif,
un mélange de vie vécue, de livres lus, de chansons qui ressuscitent les morts, d'images imprimées sur la rétine, images révélées, montées, oubliées, puis ranimées.
La pluie, orage et tonnerre, averse, s'attarder puis s'évanouir.
Tout est impression,
pressentiment,
empreinte, reflet,
goutte,
rideau,
vitre,
filtre. Pellicule finement déposée sur les jours,
surface pâle,
pour cette vitale incertitude des contours qui nous oblige à contempler ce qu'on voit mal.
À l'embrasure,
la transparence,
filtre, rideau,
la rondeur,
image dissoute,
l'atmosphère,
porte ouverte,
les nuits d'hiver,
douleur et
les ombres,
le temps,
les lueurs,
seuil,
les étoffes,
intervalle tendre,
le temps,
sommeil.
Le sommeil,
laisse-moi entrer, il pleut averse,
la grisaille,
existence,
les vivants,
arrive, vacillante,
les morts,
grisaille impalpable,
l'amour,
plus tard,
les feux du soleil,
le cimetière,
les galaxies, les nébuleuses,
tous les vivants et les morts,
les étoiles,
l'amour,
le tissu de la langue,
les feux du soleil,
la grammaire intime
la
du monde,
la violence et la légèreté,
les pensées,
galaxies,
les fleurs,
des étoiles,
les autres.
Des planètes,
la neige,
l'infinité informe, loin sous terre, des reflets bleus, une générosité,
la neige,
des champs perdus,
des mais rien n'est exactement ça.
Une illusion qui s'entête à durer, la raison s'efface, une luminosité opaline, la trame des jours, la neige. Pas exactement ça. Une pensée, une fleur, une photographie, la pluie lenticulaire, pluie en chemin vers nulle part, la neige, la générosité des pleurs, prendre soin des autres, la neige. Mais ce n'est pas exactement ça.
Production de Rhizome qui remercie CKRL et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.